Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Plus de la moitié des fruits et légumes de l'agriculture intensive seraient contaminés par des pesticides. Alors quel impact cette exposition limitée mais répétée aux résidus de pesticides a-t-elle sur notre santé? C'est l'enquête de la semaine. Commencer un potager pour produire et consommer vos propres légumes bio qui ont du goût, eh bien ça c'est une bonne idée. Créer son potager permet aussi de se reconnecter à la nature. Alors comment débuter? Quels sont les légumes et les fruits les plus faciles à cultiver? C'est la question de la semaine. Et puis les légumes, ils sont la hantise des petits et souvent des grands aussi. Alors trop fat, difficile à cuisiner, les raisons ne manquent pas pour faire l'impasse dessus. Pourtant, ils sont les garants d'une bonne santé. Ce matin, dans Nous voilà bien, notre invité va rendre les légumes sexy avec les carottes, les fenouilles, les asperges, les choux, les petits pois, les courgettes. Bref, ce sont les recettes de la semaine. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelle joie, c'est le week-end et on le commence ensemble sur RTL, donc forcément on le commence bien. On est ensemble jusqu'à 10h, je vous espère en forme et prêt à recevoir de judicieux conseils conso. C'est parti.
Des beaux légumes pour tout le monde, des navets puis des laitues, des oignons puis des concombres et puis deux choux-fleurs.
Bonjour Elsa Abdoun.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation ce samedi matin. Vous êtes journaliste à Que Choisir, dont le numéro d'avril est en kiosque. Alors, vous avez fait une étude, Elsa, qui montre que 50% des denrées végétales non bio sont polluées par au moins un résidu de pesticides potentiellement dangereux pour la santé. Quand on dit potentiellement dangereux pour la santé, ça veut dire quoi?
Alors, ce qu'on a considéré comme potentiellement dangereux, enfin comme dangereux dans cette enquête, ce sont les perturbateurs endocriniens, donc ceux qui vont aller altérer le système hormonal, les cancérigènes, les mutagènes et les pesticides qui peuvent provoquer une baisse de la fertilité. C'est, pour nous, c'était ça dangereux. Et ce qui est intéressant dans ces types de dangers, c'est que certains de ces pesticides, ils peuvent produire des effets même délétères à des doses infimes. Donc, même si la plupart du temps, les produits qu'on a regardés étaient contaminés par des doses de pesticides très faibles, en dessous des plafonds réglementaires, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet sur la santé. D'autant plus que, comme il y en a des dizaines, bah, il y a un risque d'effet cocktail, c'est-à-dire de synergie entre toutes ces molécules toxiques.
Mais attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'il y a l'EFSA quand même. L'EFSA, c'est l'Agence sanitaire de sécurité de l'alimentation qui nous dit qu'il n'y a pas de risque pour le consommateur.
Alors, elle ne dit pas exactement ça, en fait. Ouais. L'EFSA, quand on regarde bien, elle ne dit pas de risque pour le consommateur. Elle dit risque faible pour l'exposition à certains pesticides. Donc, elle n'est pas aussi rassurante que ce qu'on essaye souvent, parce qu'on entend parfois. Donc, il y a ce problème-là. Et puis, finalement, pour moi, la vraie question, c'est comment on en arrive donc à avoir justement ce taux énorme de résidus de pesticides potentiellement dangereux qui amène l'EFSA à ne pas être si rassurante que ça. Et pour moi, il y a deux éléments de réponse. D'abord, il y a le fait que pour beaucoup de ces molécules à risque, elles ne sont pas interdites par la réglementation parce que le niveau de preuve de danger qui est exigé avant d'interdire en Europe une molécule, il est très élevé. Ce qui fait que parfois, l'EFSA va dire sur celui-là, on manque de preuves de danger, on ne sait pas. On ne sait pas, ça suffit à être autorisé. Et puis ensuite, même quand les molécules sont interdites à l'usage en Europe dans les champs, elles ne sont pas forcément interdites dans nos aliments. Parce que d'abord, elles peuvent persister dans l'environnement. Elles ont été interdites depuis des dizaines d'années, mais elles sont encore là, elles contaminent encore nos aliments. C'est par exemple le cas de la chlordécone aux Antilles ou du DDT. Et puis, ces pesticides peuvent aussi venir de pays où ils sont encore autorisés, de pays desquels on importe nos aliments.
Mais pourquoi les experts et les politiques minimisent-ils les risques pour la santé?
C'est vrai donc que l'EFSA et les agences réglementaires européennes, elles ne vont pas forcément toujours être soucieuses de pointer très clairement les risques. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans cette enquête, c'est que même quand le risque est déclaré par les agences, reconnu par les agences réglementaires, il y a un problème de gestion de ce risque par les politiques, puisque même quand on dit « Ah, il semble bien que ça puisse être un perturbateur endocrinien », le pesticide reste autorisé. Et même, un autre exemple, quand l'Agence européenne des produits chimiques dit « ce pesticide », et quand je vous dis ça, j'en ai vraiment quelques noms en tête très, très clairs, ce pesticide est très certainement un mutagène qui peut favoriser des cancers dès la première goutte, et bien parfois, ce produit-là, il va être autorisé à laisser des traces quand même dans nos aliments, parce que le règlement européen permet ça. Donc, on peut se demander si c'est bien normal.
Bah, c'est très, très flippant. Le glyphosate, c'est l'herbicide hein, le plus utilisé dans le monde. Il est reconnu probablement cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer et l'INSERM. Et il est toujours utilisé par les agriculteurs français.
Oui, il est encore autorisé puisque les agences réglementaires européennes, elles, pour l'instant, considèrent, contrairement donc à l'INSERM et à l'OMS, qu'il n'y a aucun danger associé à ce produit. Donc, du coup, ça reste autorisé pour l'instant. C'est un peu, ça va dans le sens de ce que vous disiez, peut-être une minimisation du risque, en tout cas une évaluation du risque qui est assez favorable dans le cas du glyphosate aux producteurs.
Mais il y avait une promesse quand même qui avait été faite.
Tout à fait. Bah, c'est compliqué, hein. Le glyphosate, c'est effectivement, c'est l'herbicide le plus utilisé dans le monde et chez nous. Et les agriculteurs ont du mal à s'en passer. Donc, c'est compliqué de l'interdire, effectivement, même si, bon, les preuves de risque nous, comment dire, invitent à le faire, à essayer de s'en passer.
Il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué dans votre étude, c'est que les pomelleuses contiennent du... Alors, vous le savez mieux que moi.
Pyriproxyphène,
voilà, c'est un probable perturbateur endocrinien. Comment est-ce que ça peut traverser la peau du pomelos ? J'ai pas compris.
Alors, pour le pyriproxyphène, je peux pas forcément vous dire si ça traverse la peau ou pas, parce qu'en fait, les analyses, elles sont faites sur le fruit en entier, donc avec la peau. Pour autant, des pesticides, on en retrouve dans les fruits, qui à l'intérieur des fruits et pas forcément sur la peau. Par exemple, parce que, en fait, ça va aller sur le sol et ça va se déposer sur le sol et la plante va absorber les molécules qui sont dans le sol. Donc ça, c'est tout à fait possible d'en trouver dans le fruit. Et puis, au passage, on peut préciser que les fruits, souvent, on les mange avec la peau, c'est moins le cas avec les agrumes, mais bon, il y a pas mal de gens qui font aussi des gâteaux avec les zestes, donc la peau, ça reste intéressant à regarder quand même.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, parce que j'ai encore des questions à vous poser, Elsa.
Oh, très bien.
Et puis, on accueillera également Sébastien Parot et Pierre, le cultivateur, qui sont nos deux invités en studio. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Comment réussir son potager ? Notre invité, c'est Pierre le cultivateur. Il va tout vous expliquer. Vous allez voir, ça paraît compliqué parfois. En fait, c'est très simple. Comment cuisiner les légumes avec panache pour éviter de s'ennuyer ? Eh bien, ça, c'est avec Sébastien Parot qui nous livrera tous ses trucs et astuces pour avoir des recettes savoureuses. Mais pour l'heure, bon, on est un petit peu sérieux quand même avec vous, Elsa Abdoun, parce que vous êtes journaliste à Que Choisir et vous avez mené l'enquête. Une enquête que l'on retrouve donc dans Que Choisir actuellement en kiosque, dans laquelle effectivement on apprend que certains fruits et légumes sont infectés par de faibles doses de pesticides, mais faibles, mais quand même particulièrement malfaisantes. Hein, je dirais, elles sont efficaces dans leur nocivité. Alors c'est fou parce qu'effectivement on a tendance à penser que l'on est en sécurité en tant que consommateur, mais il vaut mieux être un consommateur averti et c'est pour ça qu'on vous a accueilli aujourd'hui. Quels sont les fruits et les légumes qui sont les plus contaminés par les pesticides, selon votre enquête ?
Alors, d'abord, dire que quand même, globalement, la plupart sont assez fréquemment contaminés, je tiens à le préciser, même s'il y en a qui le sont plus que d'autres. On peut citer, dans les analyses qui ont été faites en 2019, c'était les cerises, pamplemousses, pêches et nectarines, les choux de Bruxelles, les pommes, ou encore le raisin qui arrivait en tête, mais il faut aussi préciser donc, d'abord qu'il y en a beaucoup d'autres que je ne cite pas qui sont souvent contaminés. Et puis, ça peut aussi varier d'une année à l'autre. D'autres peuvent arriver en tête voilà, selon les besoins de traitement, selon le climat, etc.
Et les légumes et les fruits les moins contaminés ?
Alors, dans les moins contaminés, on avait en 2019 l'asperge, le kiwi, le manioc, la noix, le brocoli et le topinambour.
Ouais, enfin, ce ne sont pas les légumes les plus glamour. Hein, ce que je veux dire. Ça peut être délicieux, on en parlera avec Sébastien Parot peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que ce ne sont pas les plus glamour. Entre, par exemple, une pêche et une cerise, et donc topinambour et du manioc, ce n'est pas véritablement la même chose. Hormis les fruits et les légumes, il y a d'autres aliments qui sont lourdement contaminés par des pesticides ?
Oui, globalement, on retrouve des résidus de pesticides et des résidus de pesticides à risque. en ce qui nous concernait notre enquête, vraiment sur l'ensemble des produits végétaux. Donc ça pouvait aussi être le thé, le piment, le blé, enfin les céréales de manière générale, les pommes de terre, le riz. Voilà, c'est tous les produits végétaux.
D'accord. Manger 100% bio, ça nous préserve assurément d'une exposition ou pas ?
Alors, le bio, c'est pas un label qui garantit l'absence de résidus de pesticides, mais comme je vous le disais, les chiffres montrent bien que quand même, ça réduit fortement l'exposition, puisqu'on trouve 4 à 5 fois moins souvent de résidus de pesticides sur les produits bio. Et ça, c'est valable pour le bio français comme importé. Souvent on dit ah oui, mais globalement nous les chiffres qu'on a trouvés sur le bio, même importé de l'étranger, ça reste quand même plus favorable, plus intéressant, moins contaminé que le conventionnel.
Est-ce que je dois me méfier des labels?
Disons que au-delà du bio, il y en a. Selon nous, ce qu'on a trouvé comme autre label fiable, il n'y en a qu'un autre, c'est les sans résidus de pesticides. Parce qu'on les a nous-mêmes testés à Que Choisir il y a quelques mois, et parce que la DGCCRF, la répression des fraudes, l'a fait aussi, et confirme, globalement, nos résultats confirment que les produits avec des labels sans résidus de pesticides tiennent plutôt bien leurs promesses. Donc ça peut être intéressant. Pour le reste, il faut se méfier de toutes les allégations. On voit un drapeau français, il y a marqué durable. Voilà, on donne une impression de sain, et c'est souvent marketing. Ça ne veut rien dire sur l'aspect pesticide. Pareil pour le local, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont en tête, l'idée que le local, c'est forcément moins contaminé. Bon, pour l'instant, ça reste à prouver. Local, ça ne veut pas dire bio.
Ça veut dire local, on a bien compris.
Tout simplement.
Exactement. Merci beaucoup, Elsa, d'avoir répondu
à
toutes nos questions. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, je leur conseille évidemment le magazine Que Choisir, actuellement en kiosque, et cette étude édifiante. On va passer au potager. Vous nous suivez, Elsa ?
Volontiers, oui.
Voilà, je vais vous présenter un mec vachement sympa. Je le suis sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Pierre le Cultivateur et c'est tout de suite dans Nous Voilà Bien.
J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas ?
J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas ? Bonjour, Pierre le Cultivateur.
Bonjour.
Bah en fait, c'est à vous qu'il faut faire appel quand on a un problème, quoi. Pourquoi ça pousse pas ? Vous pouvez tout nous expliquer ?
Tout, peut-être pas, mais en tout cas, je peux essayer de vous aider.
En tout cas, moi, je vous adore. Vous êtes le jardinier star de TikTok et d'Instagram. Et en plus de ça, j'apprends que vous avez fait un livre, d'ailleurs.
Tout à fait.
Réussir
le 9 mars.
Potager aux éditions Marabout. Si vous êtes sur les réseaux sociaux et notamment donc sur Instagram, allez à la rencontre de Pierre le Cultivateur. En fait, moi, ce que j'aime dans les vidéos que vous proposez, c'est que ça nous paraît hyper simple, que vous avez l'air super sympa et que c'est tout à coup, je sais pas, jardiner, c'est moderne et c'est tendance.
Alors bon, déjà je suis sympa, ça c'est le premier point. Et ensuite non, mais je pense que c'est vraiment simple. On se fait toute une montagne de devoir cultiver, réussir son potager, mais si on a les bonnes bases, on peut y arriver assez facilement. Il faut pas partir tête baissée avec des projets trop ambitieux. Il faut y aller petit à petit. Moi, c'est vraiment l'un des conseils que je donne à chaque fois, c'est commencer par des petites surfaces, une petite surface, des légumes simple et avoir nos premières récoltes, finalement, ça va nous donner envie de continuer d'aller plus loin.
On a besoin de quoi comme matériel pour faire du jardinage ?
Alors moi, il y a un outil que j'adore, c'est ça, si on a un jardin en pleine terre, c'est la grelinette.
C'est quoi la grelinette ?
La grelinette, c'est une sorte de croc, de binette assez longue, et en fait ça permet de travailler la terre sans se pencher, sans se casser le dos. Ça permet d'aérer le sol tout en respectant la vie du sol, la biodiversité qu'il y a dans le sol. Donc plutôt que de labourer son terrain, on va utiliser la grelinette. Et moi, les deux autres outils que j'utilise, bien entendu, c'est une bonne paire de gants, parce que sinon il faut se laver les ongles toutes les 2-3 heures, et c'est un croc à 4 dents. Un croc à 4 dents, c'est une petite fourche à main avec 4 crocs pour travailler la terre et l'aérer. Et après, par ça, rien de plus, de la motivation.
Il y a un truc qui est marrant que j'ai vu sur une de vos vidéos dernièrement, c'est que vous vous servez de votre main pour faire des tranchées.
Pour faire des sillons, tout à fait. Ben oui, il n'y a pas besoin d'outils en fait, même un crayon, une main. En fait, on a ce qu'il faut, hein, naturellement. Ouais. Donc, faut utiliser son corps, en tout cas ses mains, pour réussir à faire son potager.
Très bien. Dites-moi, si je veux me lancer tout à coup dans un potager, il faut que je fasse attention à quoi ?
Bah, la première chose, c'est pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc, c'est vraiment faire une surface assez utile et une petite surface. Et ensuite, c'est l'ensoleillement. Ouais. Premier point. Alors moi, j'aime bien donner aussi l'exemple, c'est il faut avoir envie de passer du temps dans son jardin. Quand on a un grand jardin, alors moi j'ai la chance d'avoir un grand jardin, et je donne cet exemple à mes amis, c'est se dire l'endroit où vous voulez mettre votre piscine, finalement c'est l'endroit où vous devez placer votre potager. Souvent il est ensoleillé suffisamment, il est à l'abri du vent, et on peut travailler en intimité et au calme. Et moi je pense que ça c'est l'un des points importants, c'est pouvoir profiter des bruits de la nature. Et il faut 6 à 8 heures d'ensoleillement quand même. Une source d'eau pas trop éloignée, sinon on va se casser le dos à porter les arrosoirs. Et puis voilà, c'est tout.
Et si je n'ai qu'un balcon ?
Ah bah après, si on a qu'un balcon, bien sûr qu'on peut faire des choses sur un balcon. On peut quasi faire tous les légumes. Alors on va laisser tomber les légumes qui prennent trop de place. Des tournesols géants de 3 mètres de hauteur, on va peut-être laisser tomber. Les haricots verts où il faut des mètres linéaires de place, on va laisser tomber. Mais tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, des laitues, même quelques pommes de terre dans des petites tours. Moi j'ai fait mes premiers potagers, ils faisaient 1,20 m par 1,20 m. Donc on peut y arriver et on peut même faire encore plus petit.
Je suis venue avec un noyau d'avocat.
Alors, un pépin d'avocat.
Bon, bah voilà, ça commence bien. Donc, il faut aussi que j'apprenne à parler Pierre le cultivateur. Donc, je suis venue avec un pépin d'avocat. Bah, tiens, vous allez nous expliquer pourquoi on appelle ça un pépin dans un instant, parce que vous allez également nous expliquer qu'avec ce petit, ce pépin-là que j'ai dans la main, je peux faire pousser un avocatier.
Tout à fait.
On se retrouve dans un instant sur RTL et puis on accueillera également Sébastien Parot parce qu'avec lui, on passera du potager à l'assiette parce qu'il va nous parler cuisine. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h tous les samedis sur RTL. Merci pour votre fidélité. Je sais que vous attendez les recettes de la semaine. C'est avec Sébastien Parot que l'on accueille tout de suite. Bonjour Sébastien.
Oui.
Bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous, ça va ?
Oui, très bien.
C'est vous le mec en cuisine ?
C'est moi.
Non mais parce qu'en fait, il y a un truc qui est dingue, c'est que ce matin dans cette émission, j'ai l'impression de recevoir tous les gens que je regarde sur Instagram et que je suis. Mon mec en cuisine, en fait, c'est votre site, c'est votre compte Instagram. Et l'idée, c'est que vous venez faire la cuisine chez moi.
Exactement, je suis chef privé.
Ouais.
Et donc, on se met d'accord sur
le menu.
Sur le menu, sur déjà les restrictions,
ouais.
S'il y en a, des allergies. Des,
ouais.
Et c'est en fait du sur mesure.
Mmh. Donc on peut, vous pouvez être mon mec pour une soirée, quoi.
Exactement.
Ah bah voilà, bah ça
au
commence bien. Mais pour l'instant, je vous partage également avec Pierre le cultivateur, qui est notre invité. Merci Pierre le cultivateur d'être là. Est-ce que vous connaissez mon mec en cuisine ?
Alors oui, mon mec en cuisine, je connais.
Ah ouais ? Alors et est-ce que vous connaissiez Pierre le cultivateur ?
Non, je le découvre, mais avec plaisir.
Bah nous, on fait du date en plus, hein, bah tu voilà. vois, dans cette émission. En tout cas, soyez les bienvenus. Merci. On poursuit avec vous, Pierre le cultivateur. Si vous avez bien un nom de famille, Plantman.
Oui. Bah, Plantman. Mais je ne mets pas encore le slip au-dessus du pantalon. Mais oui, c'est un surnom qu'on m'a donné, qu'on m'a donné sur les réseaux sociaux. Dès que quelqu'un a un problème avec une plante verte ou un problème dans son potager, finalement, il me mentionne, il me tague pour que je vienne les aider.
On appelle Plantman, donc, quand on rencontre une problématique. Vous cuisinez beaucoup les légumes, vous, Seb ?
Oui, énormément.
Ouais, ça, c'est hyper bon. C'est sain, en plus. C'est important dans l'assiette. Vous avez un jardin ? Vous avez un balcon ?
J'ai un jardin familial à quelques kilomètres de Paris.
D'accord, donc dans lequel vous pouvez vous aussi cultiver ?
Alors, oui, ou en tout cas, la belle-mère cultive.
Et il fait bosser la belle-mère.
Ouais, oui.
D'accord, ok.
Et donc, un jardin en biodynamie.
Ouais,
donc,
super.
Avec des pieds de tomates, des pommes de terre, des fraises, des artichauts. Des poivrons également. Enfin bref. Et au fil des saisons, là on est plutôt sur l'été. Hein.
Ouais.
On récolte pas mal et en fait, quand ça pousse
quand
directement
ça pousse bien,
au bout du jardin,
super.
Ça a un autre goût.
Alors ça c'est au bout du jardin, mais on peut le faire aussi, Pierre le cultivateur. Donc sur notre balcon, c'est ce que vous nous avez expliqué. Bon, l'idée c'est effectivement de ne pas voir les choses en trop grand. Est-ce que je dois semer mes graines directement en pleine terre? Dans des pots ou est-ce que je dois les mettre au chaud dans des barquettes ? Parce que vous m'avez confié en préparant cette émission, oui mais en fait moi quelque part aussi je réapprends aux gens qui me suivent ce qu'on leur disait à l'école.
Mais en fait il y a des graines qu'on peut semer directement en pleine terre, tout ce qui est fèves, petits pois, haricots verts, il faut même les semer en pleine terre puisqu'il faut faire des quantités assez importantes. Par exemple, moi j'ai sorti un calendrier de semis où je mets les quantités qu'il faudrait cultiver pour être en autonomie alimentaire pour une famille de 4 personnes. Il faut compter à peu près 400 graines de haricots verts. On ne va pas mettre 400 graines dans des godets individuels, donc on les met directement en pleine terre. Par contre, pour tout ce qui est tomates, où on doit attendre finalement la mi-mai, les seins de glace, pour pouvoir les sortir, qu'il n'y ait plus de risque de geler, là, on peut commencer à faire ces semis au chaud en intérieur, donc les tomates, les poivrons, les aubergines, pour les mettre en pleine terre. Après, ça nous permet de gagner du temps et d'avoir des plants plus robustes dès la mi-mai.
Qu'est-ce qu'on sème maintenant, là, en avril?
Alors, en ce moment, on peut faire les petits pois, bien entendu. On peut faire des radis. On a déjà mis les fèves et les pommes de terre en pleine terre. On a déjà mis l'ail et l'oignon, mais il n'est pas encore trop tard. On peut y aller, on peut encore se faire plaisir. Donc, on peut mettre en ce moment les petits pois, on peut mettre les blettes ou les poirées. On peut mettre des radis, on peut semer des carottes, des choux. On peut se faire plaisir quand même.
Mais j'achète mes graines en jardinerie?
Oui.
D'accord.
Et après, on peut récupérer ces graines aussi.
Ah, c'est-à-dire, alors c'est ça qu'on
découvre. Si vous mangez une tomate, vous achetez une tomate dans le commerce, vous la croquez, vous aimez bien cette tomate, vous pouvez récupérer les graines, les faire germer pour les remettre dans votre jardin. Après, il y a des variétés qui sont plus résistantes au froid si on habite au nord de la Loire, des variétés qui résistent un peu plus au soleil. Souvent, quand on prend une tomate en grande surface, on va se retrouver avec des variétés communes. Donc la cœur de bœuf, la noire de Crimée, etc. Et donc on va récolter ces graines et on peut les semer. Mais attention, ça c'est valable pour certains légumes comme la tomate, puisqu'il y a des légumes qui vont s'hybrider, comme la courge. Donc ça veut dire que si on prend deux variétés de courge, une courge de Nice et une courge musquée de Provence, si on récolte les graines d'une courge de musquée de Provence, on n'est pas sûr d'avoir une courge musquée de Provence
par la suite. Oh, c'est génial ! Mais on peut faire des
super... On aura une hybridation.
Mais c'est dingue ! Mais ça veut dire qu'on peut s'amuser aussi.
Alors on peut s'amuser, par contre ça prend de la place, ça prend du temps et on n'est pas sûr du résultat. Le goût peut être médiocre, la forme peut être pas intéressante, mais on peut essayer.
D'accord, donc il faut bien savoir quelles graines finalement je sème et quand je la sème, c'est aussi tout con que sur votre compte Instagram, c'est-à-dire je la mets dans la terre, je l'arrose, je la surveille et tout à coup il y a une petite pousse vert tendre qui sort.
Il ne faut pas enfoncer de trop les graines. Alors moi j'aime bien pour les graines un peu épaisses les faire tremper dans de l'eau pour accélérer leur germination. Et sinon après il ne faut pas trop les enfoncer. Alors il y a une règle qui se dit c'est 2 à 3 fois la taille de la graine. Il faut l'enfoncer. Alors sur une graine de tomate c'est très petit, donc c'est quelques millimètres. Et sur une graine de petits pois ou d'haricots verts, il faut l'enfoncer de quelques centimètres.
Si là, je prends une tomate et que je la mets dans un petit pot sur mon balcon, j'ai une chance d'avoir des tomates cet été ?
Oui.
Arrête.
Bah oui.
Non, non, mais moi, je trouve ça dingue. Et je vais voir le truc pousser, je le laisse faire.
Voilà, il faut le laisser faire. Alors, le pied de tomate, ça se taille. Ouais. Il faut faire attention aux maladies, il faut faire attention aux ravageurs. Les limaces adorent manger les feuilles de tomate. Et le mildiou peut s'inviter sur vos pieds de tomate ou d'autres maladies. Donc, il faut quand même observer, regarder ce qui se passe au niveau de son plant. S'il y a des taches qui apparaissent anormales, il faut regarder un petit peu. Et là, il faut me suivre pour savoir ce que c'est.
Pierre, évidemment. Oui,
on peut rappeler comment éviter le mildiou?
Alors, le mildiou, il y a plusieurs astuces. Alors, déjà, il faut aérer les plants. Moi, je pense que ça, c'est l'une des premières astuces. Il faut éviter de cultiver des légumes qui peuvent avoir la même maladie. Donc, on parlait de pommes de terre et de tomates. Il faut éviter de les cultiver l'une à côté de l'autre parce qu'elles ont un ennemi commun qui est le mildiou. Il faut aérer les plants. Finalement, la circulation de l'air entre ces cultures va défavoriser la propagation des maladies. Et après, il y a un tas d'astuces qui existent finalement, comme les petits fils de cuivre dans les plants de tomates pour éviter que le mildiou puisse apparaître. Voilà.
Comment je sais que mon potager a des carences?
Alors les carences, ça va être des taches sur les feuilles. On peut avoir des taches jaunes, on peut avoir des feuilles un peu trop vert clair. Donc là, c'est si on arrose avec l'eau du robinet, par exemple, qui est riche en chlore. Donc on va avoir une carence en fer. Donc il faut compenser. Les carences, ça arrive. Alors l'idée, ça serait d'utiliser du compost quand même en début de saison, soit en fin d'automne, soit au début du printemps, pour enrichir sa terre, enrichir son potager, pour éviter d'avoir ces carences.
Regardez, je suis venue donc avec mon pépin d'avocat. C'est quoi la différence entre un pépin et un noyau?
Alors oui, parce que c'est vrai que je dis à chaque fois le mot pépin sur mes vidéos et je force à le dire. Il y a un vrai débat sur ce sujet. Un noyau, en fait, il est entouré d'une petite coque solide, souvent composée de bois. On pense tout de suite au noyau de cerise, finalement, qu'il faut casser pour aller récupérer la graine à l'intérieur. Et pour l'avocat, on parle bien d'un pépin. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de coque qui durcit ce pépin.
Ce pépin que j'ai là, si je le plante, je vais pouvoir avoir un avocatier.
Tout à fait.
Arrête.
Bon, alors, pour avoir des fruits, il va falloir être patient.
Je vous tiens au courant, Seb. Je vais vous fournir vos avocats pour vos prochaines soirées.
Avec grand plaisir.
Mais tout à fait.
Il faut être patient.
Il faut être patient. Alors, pour des fruits, il faut compter une dizaine d'années.
D'accord, ok. Mais les feuilles sont jolies aussi.
Mais ça fait une très belle plante verte gratuite, vraiment.
Bon, alors qu'est-ce que je fais?
Alors, la première étape, c'est retirer la petite pellicule qu'il y a autour du pépin.
D'accord.
Donc voilà, il y a une pellicule autour, il faut la retirer. Voilà.
D'accord.
Ça, c'est. Alors, on la retire parce que souvent, c'est un risque de pourrissement. C'est ce qui fait pourrir finalement le pépin. pépins. D'accord. Alors, pour faciliter le retrait de cette pellicule,
oui, parce que c'est pas évident, hein.
Ce qu'il faut faire, c'est le tremper votre pépin donc, dans de l'eau pendant 24 heures. Et okay. En fait, au bout de 24 heures, on va retirer la pellicule. Et une fois que cette pellicule est retirée, on prend une boîte hermétique.
Ouais.
Toute simple.
On
prend
pot,
du coton.
Un pot, parfait, quoi. Oui.
Voilà, un pot. On prend du coton.
D'accord.
Ou alors de l'essuie-tout qu'on humidifie. On place son pépin dedans. On met le tout dans la boîte hermétique. Et ensuite, on place ça dans une pièce de sa maison, sous son fauteuil.
Au soleil ?
Non, surtout pas au soleil. Sous son fauteuil, sous un meuble. Et on l'oublie. On l'oublie pendant un mois, 5-6 semaines, un mois et demi. Et après, on ouvre. Et là, il y a une germe directement. Et une fois que ça a germé, on peut soit utiliser alors, ce qu'on appelle un cône de propagation, comme celui-ci.
D'accord.
Où finalement, on a le pépin qui peut se placer. Ou des cure-dents. Et la racine qui est sortie, on la met au contact de l'eau.
Et après, ça pousse.
Et après, ça pousse.
Et après, j'ai plus
simplement
qu'à planter.
On change l'eau toutes les semaines quand même, ouais, pour éviter que l'eau verdisse. Et puis, on ne fait plus rien. On s'en occupe. Et là, on le place quand même au contact du soleil ou dans une pièce lumineuse.
Et rendez-vous dans 10 ans.
Voilà.
Voilà. Vous restez avec nous, Pierre le cultivateur, parce que dans un instant, c'est avec Seb Parot. Je vous appelle Seb parce que voilà, on s'est déjà croisés. Mais en fait, Sébastien Parot, voilà, qui est mon mec en cuisine. On va parler cuisine sur RTL. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Nous voilà bien, se poursuit sur RTL et c'est l'heure des recettes. Avec vous, Sébastien Parot, parce que votre femme donc vous prête hein, régulièrement, puisque vous êtes le mec en cuisine. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, parce que vous allez à domicile. Non, mais quand on dit j'appelle mon mec en cuisine, excusez-moi, mais c'est de vous dont on parle.
Oui.
Voilà,
oui.
Génial. Donc vous, en fait, vous venez chez nous 2 heures avant le dîner, vous vous occupez des courses, on s'est entendu sur tout, et vous vous occupez de rendre ma table belle, et je peux même dire à la fin, c'est moi qui l'ai fait. Et on dira à personne que c'est vous qui étiez en cuisine. Bon, ça c'est génial.
C'est notre petit secret.
C'était intéressant hein, d'écouter Pierre le cultivateur, vous m'avez dit, mais tout a l'air si simple.
Tout a l'air tellement simple avec lui.
Ouais.
On part d'un produit simple, on part d'un produit qu'on a sous la main,
ouais,
et on a tout de suite envie de le transformer. Et d'en profiter, parce que les vertus, on les a, on en profite pleinement,
ouais,
quand on a son propre potager.
Oui.
Alors, les légumes, c'est votre dada à vous aussi?
Ça l'est devenu.
Ouais.
J'étais un gros viandard.
Ouais. Toujours ou pas?
Non, plus.
Enfin, vous mangez plus du tout de viande?
Ouais. Avant, c'était peut-être 2-3 fois par semaine. Là, c'est peut-être 2 fois par mois.
D'accord, ok.
Voilà.
Donc, ça veut dire que les légumes peuvent aussi être sexy. C'est-à-dire
ça
que les enfants ne veulent pas manger de légumes. Il y a des adultes qui ne mangent pas de légumes. Moi, j'adore les légumes parce que je pense qu'il y a des façons, mais multiples, de les cuisiner. C'est ce qu'on va voir avec vous. Déjà, les crudités, on peut en abuser? On peut s'en mettre vraiment plein pot là en ce moment ou pas? Parce que non, mais on arrive aux saisons des crudités. Donc,
j'éviterai.
Ah.
Tout simplement pour éviter des problèmes de digestion. Tout le monde n'est pas constitué de la même manière.
Ouais.
Et y a des gens avec des colons un peu plus irritables.
D'accord.
Donc favorisés par l'excès de légumes crus.
Bon, et alors comment je peux rendre par exemple un légume sexy aujourd'hui?
Ah bah,
il y en a plein là, on va arriver à la belle saison.
On arrive dans une saison que j'adore,
ouais,
avec les légumes verts. Et donc, en fait, il y a toujours un fil conducteur que j'essaie de respecter, quelle que soit la saison et ce que j'ai sous la main.
Mmh.
C'est d'avoir ce qu'on appelle au Japon l'umami.
Mmh.
C'est-à-dire un équilibre entre l'acidité, le croquant, le sucré. Et essayer d'avoir quelque chose d'à la fois riche, complexe, tellement simple, et où rien prend le dessus, tout s'accorde parfaitement. Donc,
on dirait un musicien, vous ne trouvez pas, Pierre?
Ah oui, j'adore.
Mais
voilà, il parle
en fait,
de notes de musique,
ça se compose
c'est
un peu comme un groupe de rock.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a la guitare, il y a la rythmique, il y a le leader, il y a le batteur, il y a le bassiste, et en fait, à la fin, ça fait de la musique.
Mais il y a quelque chose que j'adore faire, moi, en cuisine, c'est de prendre, par exemple, un même légume et de le proposer dans l'assiette de façon complètement différente. Je vais le proposer cru, je vais le proposer cuit, je vais le proposer assaisonné. Voilà, d'avoir des textures différentes dans l'assiette. C'est quelque chose qui est... C'est une bonne idée, chef?
Oui, absolument. Absolument, ouais. Parce qu'on aura à la fois... on va bénéficier de la palette de saveurs,
ouais,
de textures différentes.
Mmh.
Et donc, ça va rendre un plat qui, sur le papier, peut être pas très intéressant,
ouais,
pour certaines personnes. Et justement, quand on veut rendre un plat sexy, un plat de légumes sexy, il faut aussi s'amuser à ça. D'ailleurs, c'est de l'amusant.
Oui, c'est ça. C'est ce que vous dites, hein, c'est un jeu. Est-ce que la sauce a de l'importance aussi?
Absolument.
Elle est essentielle. En fait, il y a plein de sauces, mais on pense toujours à l'éternelle vinaigrette. Ouais, voilà. Alors qu'en fait, il y a tellement de possibilités.
Alors, il faut sortir des vieux clichés de vinaigrette des grands-parents qui nous ont à peu près autant marqué que les légumes de la cantoche quand on était petit. Et donc, il y a des exhausteurs de goût qui vont permettre de mettre en valeur certains plats, certains légumes. Je pense par exemple à du butternut ou du chou-fleur quand on est en automne-hiver, où on va faire une sauce tahini, donc à base de fromage blanc grec, de pâte de sésame, une huile d'olive, un trait de citron, un peu de sel, du zaatar. Alors, pour ceux qui n'en ont pas sous la main,
c'est
l'origan.
C'est quoi du zaatar?
Zaatar, c'est un mélange libanais qu'on attribue aux Libanais, qui est composé de graines de sésame, de sumac, d'origan, de sel.
D'accord.
Principalement.
Ok, c'est comme le Razan Hanout pour le Maroc, quoi.
Voilà. Et donc ça va donner une sorte de douceur, un truc très réconfortant. Et donc ça, on va pouvoir napper les légumes simplement rôtis au four avec un trait d'huile d'olive. Et pour pimper et booster la chose, on va pouvoir rajouter dessus des graines de grenade, ce qui vont apporter de l'acidité, du sucre, mettre des noix de cajou torréfiées, des herbes fraîches. Alors, beaucoup d'herbes fraîches. On prend un bouquet de menthe.
C'est bon pour
menthe.
La santé, en plus.
Mais oui. Un bouquet de menthe, un bouquet de persil. On va ciseler tout ça. On va éparpiller. Ça va faire plein de couleurs. Déjà, ça va être appétissant. À la vue, et puis c'est extrêmement simple.
Vous parliez d'huile aussi. Moi, je cuisine avec des huiles différentes. Alors, il y a des huiles avec lesquelles on peut pas cuire. Il faut le savoir. Mais l'huile de pépin de courge ou de pépin de raisin, c'est quelque chose de délicieux. Vous parliez des butternuts. On en a encore sur les étals. Et ça, c'est hyper sympa de faire, par exemple, de la courge butternut au four avec un filet d'huile de pépin de courge. Et c'est absolument divin.
Oui. Ou de faire soi-même ces huiles infusées.
Alors, c'est-à-dire, et alors, comment on fait?
Ça peut être très simple. On peut prendre une huile d'olive et mettre des zestes d'agrumes, si possible bio ou non traités, dès l'instant qu'on utilise les zestes. On peut aussi, de manière un peu plus complexe, prendre un bouquet de sauge, le mettre à sécher pendant 20 minutes à 120-150 degrés au four. Et une fois sorti du four, prendre un briquet, y mettre le feu et plonger la sauge dans de l'huile d'olive pendant 10 minutes, pas plus, sinon ça apporte de l'amertume, filtrer, et cette huile d'olive, on va pouvoir l'utiliser pendant les 10 jours qui vont suivre.
Super, on en apprend des choses. Hein. Ah, vous avez de la sauge en plus dans votre jardin.
J'en ai, je vais essayer.
En fait, il faut qu'on aille chez Pierre le cultivateur et qu'on fasse la cuisine.
Je vais envoyer un panier de légumes là. C'est
faisons un dîner ensemble.
Bah voilà, exactement. Et avec tous nos auditeurs aussi. Bon, en ce moment, c'est quoi les légumes la star?
Ah, la star. Pour moi, en ce moment, c'est le retour des petits pois.
Ouais.
C'est tellement simple, mais tellement bon. Ah. Écosser soi-même les petits pois et les manger frais comme ça.
C'est divin, c'est sucré.
C'est sucré. Il y a le côté chlorophylle, ça, c'est croquant. Par exemple, mon truc du moment en froid, c'est de prendre des petits pois frais, ne surtout pas les cuire, de prendre des fraises. On a quand même les premières qui commencent à arriver, qui sont déjà un peu sucrées, et d'utiliser les fraises comme un condiment. Et donc faire un mélange, une salade avec des petits pois frais, croquants, des fraises, un peu de feta, poivre, sel, huile d'olive, basta. Et un peu de menthe ciselée dessus, et voilà. On a un truc tout bête. Si les soirées sont un peu plus fraîches, on peut se lancer dans un risotto.
Ouais.
Et dans ce cas-là, on peut retrouver la base d'un risotto classique avec des échalotes, on fait son riz translucide, voilà, l'huile d'olive, on déglace au vin blanc, on fait un risotto, on reste à côté, surtout on mouille à hauteur et on reste à côté, on ne fait pas autre chose en même temps.
On ne lâche jamais son risotto.
On ne lâche jamais de l'œil son risotto. Et au bout de 20-25 minutes, selon la quantité de riz, évidemment, c'est prêt. Et donc, parallèlement, on verse les petits pois crus dedans. On peut rajouter aussi des têtes d'asperges. Et c'est magnifique, avec un petit tour de moulin à poivre.
Vous avez un truc, vous, c'est la grémolata, c'est quoi ça?
Alors, la grémolata, justement...
On se quittera sur cette astuce. Ouais.
Alors, justement, j'en mets dessus en touche finale avant de servir ce risotto. Mais on peut le mettre sur tout un tas de choses. Les Italiens donc font un mélange de zeste d'agrumes, à savoir du citron vert et de l'orange. C'est très simple. Après, dans des proportions qui sont inégales. C'est-à-dire, on va mettre beaucoup de citron jaune, un petit peu de citron vert et très peu d'orange parce que ça prend le dessus très rapidement. Donc,
mais c'est moulu.
Non, c'est zesté.
D'accord, juste zesté.
Juste les zestes. On s'arrête quand on attaque la partie blanche, quand on voit apparaître la partie blanche sur le fruit. Et ce mélange-là, on va le parsemer sur un plat, sur ce risotto, sur même une côte de bœuf, un poisson. C'est magnifique sur de la mozza.
Vous en mettez partout, quoi.
Ouais.
Ouais. La grémolata. Merci beaucoup, mon mec en cuisine,
merci
d'être venu en studio. En fait, c'était mon mec en studio à RTL ce matin, Sébastien Parot. Je vous ai connu parce que vous étiez journaliste sportif, en fait. Donc, comme quoi, en fait, on peut changer de vie, quoi.
Absolument.
Ouais, c'est génial. Ouais. Et vous avez l'air d'être heureux. Mon mec en cuisine, c'est votre site et votre page sur Instagram. Messieurs, à très bientôt. Vous allez rentrer dans votre jardin aussi.
Ah oui,
vous,
il me manque déjà.
Cultivateur.
Oui, oui.
Comme je vous comprends, vous voulez pas m'embarquer, c'est le week-end.
Problème.
Allez, on repart tous ensemble. Merci à vous deux, en tout cas. Et puis, je rappelle votre livre aussi, hein, Réussir son potager, c'est aux éditions Marabout, Pierre. Nous voilà bien, voilà, touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés ce matin. L'émission, elle est à retrouver en podcast sur l'application RTL ainsi que sur tous les sites partenaires. Et les recettes de Sébastien, tiens, on va les mettre également sur RTL.fr. Moi, je vous retrouve dès lundi à 20h avec Jour J. C'est le magazine qui fait revivre les grands événements qui ont marqué l'actualité. Et puis, samedi prochain dès 9h15 pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, passez un excellent week-end et allez voter bien sûr.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.